E-Radio, l'invité de la rédaction de Nantes. Elisa Rulot de l'Académie E-Radio.
Faut-il avoir peur des crypto-monnaies ? C'est une question à laquelle nous avons tenté de répondre hier aux côtés d'Alexandre Stachenko, cofondateur et directeur général de Blockchain Partner, une start-up qui propose des formations et du conseil sur l'usage de la blockchain et des crypto-monnaies. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur l'intérêt, le fonctionnement, mais aussi le potentiel risque de ces crypto-monnaies et en particulier du Bitcoin. Il s'agit en effet de la crypto-monnaie la plus utilisée, comme nous l'avons vu hier. Alexandre Stachenko, pourquoi utiliser le Bitcoin pour ses transactions financières ? Quel est l'intérêt et quelle est sa valeur ?
Quand on est en France avec un compte bancaire et des virements SEPA qui fonctionnent bien, on ne se rend pas bien compte à quoi sert Bitcoin. Parce que le système fonctionne bien. Mais il faut en fait avoir en tête que la situation que j'ai décrite, c'est une partie infime de la population mondiale qui y a accès. C'est à peu près les deux tiers des adultes sur Terre qui n'ont pas accès à un compte en banque. Donc pour tous ces gens-là, faire des transactions sur Internet, ça relève beaucoup plus d'une difficulté que pour d'autres. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, pour tous ces gens-là, Bitcoin donc a une valeur intrinsèque, puisque sans Bitcoin, ils ne peuvent pas faire de transactions sur Internet, alors qu'avec Bitcoin, ils peuvent le faire. Donc déjà, il y a une valeur intrinsèque et ça justifie au moins en partie que ça ne vaille pas zéro. Une autre des raisons pour lesquelles ça a une valeur intrinsèque, et c'est la raison, j'allais dire, majoritaire aujourd'hui, c'est que ça agit comme réserve de valeur. C'est-à-dire que comme c'est une monnaie dont un actif dont la quantité est limitée, en fait, ça ressemble beaucoup à l'or ou à un métal précieux. Et avec évidemment des avantages supplémentaires, notamment que c'est divisible, c'est transférable, c'est stockable beaucoup plus facilement, etc. etc. Donc beaucoup d'entreprises commencent à se dire, je vais mettre de l'argent en Bitcoin pour sécuriser ma trésorerie, puisque les Bitcoins, c'est émis en quantité finie, donc il ne va pas y en avoir une inflation, alors que les dollars, ce n'est pas vrai.
Le Bitcoin a donc une valeur intrinsèque, mais sa valeur peut aussi être volatile. Pour quelle raison ?
Ça, c'est une question de prix, de trading et puis surtout de taille de marché. Plus un marché est petit, plus c'est facile de le faire bouger son prix. Lorsque le Bitcoin était encore tout petit il y a quelques années, il suffisait d'avoir quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros pour faire bouger le marché d'une manière significative. Évidemment que l'euro, par exemple, n'est pas aussi volatile. Pourquoi ? Parce que l'euro, il y en a des trilliards. Donc, de toute façon, si vous voulez faire bouger le prix de l'euro, c'est pas possible de le faire tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus stable. Il y a une autre raison à la stabilité apparente, par exemple du dollar, dont on dit toujours qu'il est stable. Le dollar étant la référence, c'est un peu de la triche, parce qu'évidemment, un dollar vaudra toujours un dollar. Donc, si on libelle tout en dollars et qu'après, on compare le dollar au dollar, on se rend compte assez rapidement qu'effectivement, le dollar par rapport à lui-même n'est pas volatile. Donc ça, c'est un peu de la triche dans le sens où si on sort du dollar, on s'aperçoit assez rapidement. Par exemple, vous prenez les monnaies, la rouble russe, la roupie indienne, qui sont pas des zones où il n'y a personne et qui sont en état de sous-développement, qui sont quand même des grandes zones économiques, et c'est des monnaies qui peuvent perdre 20-30% de leur valeur. Donc c'est pas la volatilité, premièrement, est relative, parce qu'il y a d'autres monnaies qui sont relatives, évidemment. Et deuxièmement, en absolu, cette volatilité de Bitcoin a tendance à décroître au fur et à mesure du temps, puisque le marché devient de plus en plus grand. Aujourd'hui, le marché de Bitcoin, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, alors qu'il y a quelques années, on était à quelques centaines de millions de dollars. Donc évidemment, plus il va devenir grand, moins il va être volatile, et c'est déjà quelque chose qu'on constate sur le temps.
On ne peut évidemment pas parler de Bitcoin sans parler de la blockchain. C'est une technologie qui a connu un véritable engouement. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ?
En fait, alors déjà, il faut prendre un peu de recul sur cette question parce que, en gros, il y a eu une focalisation de l'attention de tout le monde sur la blockchain, comme si c'était vraiment la révolution généralisée, qui va nous permettre de vivre plus longtemps, etc. Et puis, les crypto-monnaies à côté ont été délaissées. Pour vous donner une comparaison, c'est comme si dans les années 90, on avait dit vraiment HTTP ou TCP/IP, les protocoles, ça c'est super génial, génial, c'est la révolution, machin. Par contre, le web, on s'en fout. Les sites internet, non, on s'en fout, franchement, c'est nul. C'est à peu près la même analogie. Parce que la blockchain, ou les blockchains plus exactement, c'est effectivement très important, mais c'est un sujet technique, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Alors, je pourrais vous décrire comment ça fonctionne. Je vais vous décrire une preuve de travail avec un calcul cryptographique, une recherche de ce qu'on appelle un hash. Voilà. En fait, ça va être très compliqué de vous décrire comment ça fonctionne en 3 minutes, mais en plus, je ne sais même pas si c'est pertinent. Parce que de la même façon qu'aujourd'hui, on utilise tous Internet mais il y a presque personne qui sait comment ça fonctionne. J'ai un peu la même approche pour les crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une crypto-monnaie sans savoir comment ça fonctionne. C'est pas rédhibitoire. Donc voilà, c'est pour le pas de recul un peu. Les deux sont liés, mais je pense que la blockchain est un sujet technique qui devrait surtout intéresser les techniciens.
Mais concrètement, à quoi ça sert la blockchain ?
En gros, une blockchain, c'est une autre façon d'appréhender la création de consensus sur Internet entre des pairs qui ne se font pas confiance. Pour prendre un exemple tout bête, quand vous faites justement une transaction sur Internet, un virement, disons, en réalité, vous échangez rien du tout. Ce qui se passe quand vous faites un virement, c'est que vous demandez à votre banque de se coordonner avec une autre banque pour actualiser un registre de qui possède quoi. Et donc, si vous faites un virement de 100 euros, bah, en fait, la banque va appeler l'autre banque et va lui dire, est-ce qu'on, voilà, on actualise nos registres, maintenant, cette personne-là possède 100 euros de moins et la personne en face en possède 100 euros de plus. Quand le but de Bitcoin ou des crypto-monnaies en général, c'est de se passer d'un tiers de confiance, évidemment, on ne veut plus passer par cet intermédiaire bancaire qui va se mettre d'accord avec d'autres intermédiaires bancaires. Donc, comment on fait ? Eh bien, on substitue le dialogue entre deux banques pour se mettre d'accord par un calcul mathématique qui va aboutir à un résultat sur lequel tout le monde est d'accord et qui va nous permettre de générer une transaction. C'est la version très simple, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est très simple, mais en tout cas, c'est très bref. On va retrouver du coup des dizaines de milliers d'ordinateurs sur la planète qui font des calculs mathématiques. Elles le font pour trouver un consensus sur qui possède quoi. De la même façon que les banques discutent pour savoir qui possède quoi et actualiser leur registre, dans un système de blockchain, on a remplacé le dialogue entre les banques par des calculs mathématiques. Voilà. Mais l'objectif est le même, à la fin, c'est qu'il y a une transaction qui passe. Ce que permet la blockchain, c'est d'éliminer l'intermédiaire bancaire et donc, dans certains cas, de réduire les délais, les coûts de transaction. Et pour tous ceux qui n'ont pas accès au système bancaire, évidemment, de pouvoir faire sans.
Je voulais revenir avec vous sur un fait divers qui s'est produit en 2019. La mairie de Sarrebourg, en Moselle, a été touchée par un logiciel qui a pris en otage des données personnelles et une rançon a été demandée. Elle était de 7,6 bitcoins. Est-ce que l'apparition des crypto-monnaies peut encourager ce genre de cyberattaque ?
J'ai une réponse qui est très claire, qui est non. Pourquoi ? Alors, pareil, il faut prendre un peu de recul là-dessus. Déjà, premièrement, ce genre d'attaque préexistait. C'est-à-dire que les ransomware, donc les rançongiciels en bon français, existaient avant l'apparition de Bitcoin. Donc déjà, liés l'un à l'autre, comme si c'était une condition sine qua non, c'est fondamentalement faux, puisque sinon, ça aurait émergé après. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans les toutes premières années, Bitcoin était utilisé de manière assez substantielle, effectivement, pour des transactions à caractère illicite, donc que ce soit pour des places de marché de drogue, d'armes, etc. Beaucoup moins pour le terrorisme, d'ailleurs, beaucoup moins qu'on le dit, puisque c'est presque pas du tout utilisé pour le terrorisme. Et puis pour des arnaques, c'est-à-dire, voilà, envoyez-moi de l'argent ici parce que je vais vous sauver. Et puis il y a des gens qui, voilà, envoient de l'argent et puis après, trop tard, vous êtes fait arnaquer. Donc ça, c'était jusqu'en 2014-2015. Une fois que le Bitcoin, en fait, a pris de la lumière médiatique, le principe même du fonctionnement de Bitcoin, c'est que les transactions sont toutes transparentes. C'est-à-dire que n'importe qui peut voir les transactions que n'importe qui fait. Et donc, en fait, la raison pour laquelle, dans les premières années, c'était utilisé de manière substantielle pour ce genre d'activité, c'est que ça existait et que personne ne regardait. Ceci est largement faux aujourd'hui. C'est-à-dire que le réseau Bitcoin est scruté de manière assez extensive par tous les régulateurs et organismes de police au niveau mondial. Et donc, on est sur, en fait, un constat qui est à l'extrême opposé.
Mais dans ce cas, pourquoi les rançons ont-elles été demandées en Bitcoin ?
On avait beaucoup parlé du fait qu'effectivement, les rançons étaient demandées en Bitcoin. Ce que personne ne disait, c'est qu'en fait, les attaquants n'ont jamais pu récupérer leur somme. Parce que leur Bitcoin, ils dorment sur un compte, et le jour où ils sortent ces Bitcoins, on sait tout de suite où ils sont, et donc ils se font arrêter. Et donc, en fait, le Bitcoin n'est pas du tout pratique pour faire des activités illicites, des rançons, etc. Il va être utilisé, voilà, tout comme le dollar ou l'euro sont utilisés à des fins illicites, parce qu'évidemment ce sont des outils, et le fait que le dollar soit utilisé à des fins illicites ne permet pas de condamner tout le dollar. N'importe quel outil de toute façon trouve des utilisations illicites, donc il faut prendre un peu de recul là-dessus. Évidemment qu'il y a des transactions illicites qui sont réalisées en Bitcoin, elles restent en proportion bien inférieure à ce qui se passe dans les monnaies traditionnelles, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Et donc, les réactions qu'il peut y avoir en face sont généralement surdimensionnées.
Merci beaucoup, Alexandre Stachenko, cofondateur et directeur général de Blockchain Partner. Retrouvez l'intégralité de ses explications sur les crypto-monnaies sur notre site internet euradio.fr.
C'était l'invité de la rédaction. À retrouver sur euradio.fr.